Le journal, c'est avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Un insoutenable suspense, une course serrée, des accusations de voler l'élection et des menaces de saisir la Cour suprême, sans oublier la perspective de recomptage des voix dans certains États. Ce matin, l'Amérique retient encore et toujours son souffle avant de savoir avec certitude qui dirigera le pays ces quatre prochaines années.
Toujours à l'étranger, nous irons également dans ce journal en Éthiopie.
Oui, là-bas, le gouvernement central a lancé hier une offensive militaire contre une province sécessionniste, laissant craindre le pire.
L'Angleterre entre aujourd'hui dans un nouveau confinement, Thomas.
Le gouvernement avait repoussé le plus possible cette décision, mais a fini par s'y résoudre face aux chiffres alarmants de contamination en France. Cette fois-ci, le confinement allégé sera-t-il suffisant pour casser rapidement la courbe épidémique? De plus en plus d'épidémiologistes semblent aujourd'hui sceptiques sur la stratégie adoptée par le gouvernement.
Par ailleurs, et depuis la rentrée des classes lundi dernier, nombre de professeurs sont en grève ou usent de leur droit de retrait pour réclamer une meilleure application des règles sanitaires.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. Enfin, on l'a appris ce matin, le metteur en scène, Jean-Pierre Vincent, compagnon d'armes de Patrice Chéreau, qui avait dépoussiéré un grand nombre de classiques, est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Pandémie et biodiversité, en quoi s'agit-il de deux phénomènes inséparables? Un rapport d'experts de l'ONU tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Nous en parlerons avec notre invité, l'écologiste Anne Larry-Gaudry, à partir de 12h55.
Sous quels cieux politiques, dans quel état d'esprit se réveilleront tout à l'heure les Américains pour l'heure après des victoires précieuses face à son rival Donald Trump dans deux états clés, en l'occurrence le Wisconsin et le Michigan? Il semble que Joe Biden se rapproche un peu plus de la Maison Blanche, quoi qu'il en soit, et tandis que les bulletins de vote continuent donc d'être dépouillés, l'attention ne se concentre désormais plus que sur une poignée d'états. Loïc Loury, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de New York. A priori, si Joe Biden remportait le Nevada, la Géorgie ou la Pennsylvanie, il atteindrait donc le nombre magique de 270 grands électeurs pour devenir le 46e président des États-Unis. Quelles sont ses chances, Loïc, d'y parvenir?
Je crois qu'on peut se fier au candidat lui-même. Joe Biden a pris la parole, vous savez, hier, brièvement depuis sa ville de Wilmington. Je suis venu vous dire que quand le dépouillement sera terminé, eh bien, nous pensons que nous allons gagner. Alors, ces propos tranchent avec la certitude affichée la veille par Donald Trump, qui avait, lui, proclamé sa victoire très tôt dans ce long processus de dépouillement sans laisser de place au doute. Joe Biden lui reste relativement modeste, au conditionnel, en attendant d'être désigné officiellement vainqueur, mais ne s'y trompe pas, cela signifie bien que lui et son équipe estiment être aux portes de la Maison Blanche. Pourquoi, alors que des voix restent à prendre? L'explication réside dans la nature de ces voix des centres urbains, exemple la région de Philadelphie en Pennsylvanie où le vote est plutôt démocrate, et puis des votes par correspondance dont on a dit beaucoup qu'ils favorisaient là aussi les démocrates. C'est lié au contexte de pandémie et puis aux attaques répétées depuis des mois de Donald Trump contre ces bulletins envoyés par la poste.
Alors c'est la première fois depuis 20 ans que les Américains ne connaissent pas le nom de leur prochain président au lendemain du scrutin. On sait que l'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé une première offensive judiciaire dans le Wisconsin en réclamant un recomptage des suffrages. Les Républicains ont également déposé un recours pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'état clé de Pennsylvanie, à l'issue toujours incertaine. Le président sortant lui-même avait menacé dans la nuit de mardi à mercredi de saisir la Cour suprême. Et puis, on sait par ailleurs que nombre d'États ont été débordés, vous venez de le rappeler, par le déluge donc de bulletins envoyés par correspondance encouragés par cette crise sanitaire. Dans ces conditions, Loïc Loury, a-t-on une idée du temps que tout cela va-t-il prendre, étant entendu que le système électoral américain est par ailleurs fragilisé à l'évidence aujourd'hui par une persistante campagne de désinformation?
Ouais, persistante, c'est le mot. Une campagne systématique qui a été menée par Donald Trump contre ce mail-in ballot, comme on dit ici, le vote postal. Celui-ci a été encouragé à cause, on le disait, du contexte sanitaire. Le problème, c'est que dans le même temps, eh bien, le président l'accusait sans preuve d'être synonyme de fraude. Quoi qu'il en soit, des dizaines de millions de ces bulletins ont été postés, principalement donc par les démocrates. Ce sont ces voix en particulier qui sont comptées en ce moment, et cela prend plus de temps, mais cela permet aussi de dire que les voix qui restent à compter devraient faire gonfler les scores de Joe Biden. Alors je ne me risquerai pas à faire de pronostics précis. Hier soir, on espérait un résultat. D'ici ce matin, on voit bien que ce n'est pas le cas. en Pennsylvanie, par exemple, où Donald Trump mène de 2,5 points environ, les bulletins devraient être comptés entre aujourd'hui et demain soir. Cela laisse de la marge. Résultat plus probable, en revanche, aujourd'hui en Géorgie, un état du Sud où l'écart est vraiment minime. Il y a 16 grands électeurs à décrocher. On attend aussi le Nevada et l'Arizona plus à l'ouest. 17 grands électeurs de plus sur ces deux états. Ces trois états devraient même se prononcer aujourd'hui, on l'espère en tout cas, et confirmer l'avance qui a été prise par l'ex-vice-président Joe Biden.
Merci Loïc Loury en direct de New York. Alors au terme d'une longue campagne, d'une virulence exceptionnelle, perturbée par cette pandémie, les résultats partiels montrent que Donald Trump n'a pas subi la répudiation électorale que les sondages présageaient, prouvant que même s'il était battu, sa base d'électeurs lui reste largement fidèle. C'est le cas notamment dans le Wisconsin, où 20 000 voix d'écart à peine, on l'a dit, un petit point sépare donc les deux adversaires, et c'est précisément la raison pour laquelle la reconquête du Wisconsin par Joe Biden est désormais contestée par le camp républicain qui réclame un recompte des voix. Reportage à Milwaukee, signé de notre envoyée spéciale Rosalie Lafarge.
Personne n'a oublié 2016. Ici, la victoire de Donald Trump dans cet État acquis aux démocrates depuis la fin des années 80 avait surpris. Sa reconquête soulage Kyle. Je suis pas loin de l'extase. Je sais que beaucoup de gens aiment le président Trump parce qu'il n'est pas comme les autres. Mais quand même, quand on a cette fonction, on ne peut pas promouvoir la haine et la division. Joe, lui, saura réunir tout le monde autour de la table. Il peut amener les gens à se parler. Mais l'ancien vice-président ne fait pas l'unanimité ici et ça se sent dans les urnes. 20 000 voix d'écart seulement avec Donald Trump, ça s'est joué à peu de choses, regrette cette jeune fiscaliste. Je pense qu'avec Joe Biden, il va y avoir beaucoup de changements, notamment au niveau des lois, et je crois qu'on a plutôt besoin de stabilité en ce moment. Je ne suis pas du genre à aller crier ma déception dans les rues, je ne participerai pas à des émeutes, mais je fais partie des déçus. Elle attend de voir ce que peut donner la demande de recompter les votes formulée par le camp républicain, mais elle a peu d'espoir. 20 000 voix d'écart, ce n'est pas beaucoup, mais les ajustements après recompte des voix, quand il y en a, se font en général à la marge.
Voilà un reportage à Milwaukee dans le Wisconsin signé Rosalie Lafarge. La Côte d'Ivoire a beau retenir son souffle dans l'attente de la validation par le Conseil constitutionnel de la réélection controversée du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Un vent de rébellion enfle chaque jour un peu plus dans les rangs de l'opposition, au point d'ailleurs que plusieurs maisons d'opposants accusées de sédition ont été encerclées hier par la police dans la capitale Abidjan. De son côté, l'ex-chef rebelle est toujours très influent. Guillaume Soro a appelé l'armée à se mutiner. Des tensions qui alimentent évidemment la crainte d'une escalade des violences dans un pays, faut-il le rappeler, ensanglanté par une guerre civile de plusieurs mois. C'était en 2010, consécutive déjà à l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara au détriment du président sortant de l'époque, Laurent Gbagbo. Un blocage politique qui persiste donc en Côte d'Ivoire, où le bilan des violences post-électorales s'est alourdi. Bilan qui reste difficile à établir, mais se montrait à au moins 13 morts depuis le scrutin présidentiel samedi dernier. L'Éthiopie serait-elle menacée par une guerre civile ? Voilà plusieurs mois déjà que des tensions se font jour entre le pouvoir central et la région du Tigré dans le nord, dirigée aujourd'hui par l'ancienne élite politique du pays. C'est ainsi par exemple que le 9 septembre dernier, le Tigré avait tenu ses propres élections législatives contre l'avis d'Addis Abeba. Et puis, il y a quelques jours à peine, les autorités locales ont encore franchi un pas supplémentaire en cessant cette fois-ci de reconnaître la légitimité du pouvoir éthiopien. Mais l'escalade ne s'est pas arrêtée en si mauvais chemin, puisqu'hier, le Premier ministre a lui annoncé le lancement d'une opération militaire contre la région séparatiste qu'il accuse d'avoir mené une attaque meurtrière contre une base de l'armée fédérale. Bref, autant de développements qui font craindre désormais le risque d'un long conflit dévastateur susceptible de menacer la stabilité déjà fragile du deuxième pays le plus peuplé du continent. Correspondance à Addis Abeba, signé Noé Hochet-Baudin.
Des combats ont lieu près de Mekele, la capitale régionale, et à Dansha, près de la frontière soudanaise, sans que l'on soit en capacité de connaître les derniers développements, car Internet et les lignes téléphoniques sont toujours coupées dans le nord de l'Éthiopie. Pas de bilan officiel pour l'heure, le Premier ministre Abiy Ahmed parle déjà de nombreux martyrs. De son côté, le parti tigréen, le TPLF, annonce avoir capturé et tué des officiers de l'armée nationale. Après avoir déclenché cette opération, le Premier ministre a instauré un état d'urgence dans la région du Tigré. Un comité spécial a également été mis en place, un comité qui assure que cette opération vise, je cite, « simplement à libérer le peuple tigréen du gang du TPLF ». Les négociations ne sont pas une option, selon ce comité, bien décidé à prendre le contrôle de la province. La guerre des mots continue donc. Le TPLF assure quant à lui qu'une grande partie de l'armée stationnée dans le nord a fait défection et a rejoint ses rangs. Le Tigré sera le tombeau des assaillants, peut-on encore lire dans le communiqué.
Il était un vétéran très respecté de la guerre d'indépendance contre la France, mais aussi l'un des membres fondateurs du Front des Forces Socialistes, le plus ancien parti d'opposition d'Algérie. Lakhdar Bouadja est mort hier soir à l'âge de 87 ans. Dès l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, d'autant qu'il n'était pas seulement ce héros de l'indépendance, mais également un citoyen de l'Algérie moderne, figure notamment du récent soulèvement populaire. Or, pour s'être engagé justement aux côtés du Irak, il avait été l'an dernier et 6 mois durant jeté en prison, suscitant aussitôt une vive indignation. Ou quant à elle seule, sa vie symbolise au fond celle de tous ces anciens combattants mis au pas par un régime autoritaire. Je vous propose d'écouter Akram Belkaï, journaliste au Monde Diplomatique, joué en téléphone par Mathieu Laurent.
Son parcours est assez symbolique puisque c'est quelqu'un qui, après l'indépendance, a été à la fois dans l'opposition, mais qui a été aussi, persécuté, en tout cas réprimé par le régime. Il a passé plusieurs années en prison dans les années 60 et 70. Et par la suite, au début du mouvement populaire algérien, le Hirak, il s'est rangé aux côtés des manifestants et il a été arrêté, il a été emprisonné plusieurs mois pour avoir critiqué l'armée. C'est donc un personnage qui, pour beaucoup d'Algériens, représente ce qu'aurait dû être le personnel politique dans son ensemble après l'indépendance.
C'est-à-dire constance dans l'engagement et manifestement de quoi inquiéter les pouvoirs qui se sont succédés ?
Oui, constance dans l'engagement et puis aussi, je dirais, virginité politique. Il n'a jamais été aux affaires, il n'a jamais trempé dans les magouilles de différents dirigeants qui se sont succédés. Il a permis à une partie de la jeunesse algérienne de se réapproprier les symboles du passé. Cette jeunesse, elle a vite compris, elle a vite adopté ce monsieur, ce vieux monsieur, qui lui paraissait être porteur des mêmes revendications de justice, de dignité, d'exigence d'état de droit. Donc il a été dans cette veine, je dirais, de récupération de la mémoire algérienne, de la guerre de libération. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le régime s'est dépêché d'organiser un référendum pour la nouvelle constitution le jour du 1er novembre, qui est le jour du déclenchement de la guerre d'Algérie, un peu comme pour dire « mais non, cette histoire, elle m'appartient et il ne saurait être question de la partager avec vous ».
Voilà, Akram Belkaï, journaliste au Monde Diplomatique, il répondait à Mathieu Laurent. 2 jours après l'attentat islamiste meurtrier qui a endeuillé la capitale autrichienne, le gouvernement a admis des erreurs hier, en particulier des failles du service de renseignement. Tout d'abord, le terroriste qui a ouvert le feu lundi soir avait apparemment commencé à fomenter son projet. Dès l'été, sympathisant du groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat, il avait notamment tenté de se procurer des munitions en Slovaquie. Or, les services secrets de ce pays voisin avaient à l'époque alerté leurs homologues à Vienne. En vain. Et puis autre interrogation, comment ce soldat du califat a-t-il pu échapper au suivi des autorités judiciaires dont il était pourtant connu, condamné à de la prison en avril 2019 pour avoir essayé de rejoindre les rangs des combattants djihadistes en Syrie. Il avait été relâché en décembre dernier de manière anticipée et pourtant à aucun moment l'agresseur n'avait été présenté comme déradicalisé. Lors d'un deuxième confinement a sonné pour l'Angleterre et ses 56 millions d'habitants. Alors parmi les nouvelles mesures emblématiques de ces bouleversements liés à l'épidémie, les pubs qui depuis des siècles constituent pourtant l'épicentre de la vie sociale britannique devront rester fermés, comme d'ailleurs tous les commerces jugés non essentiels. En revanche, les écoles et les universités resteront ouvertes. Un nouveau lockdown qui alarme aujourd'hui les commerçants et les chefs d'entreprise, exaspérés mais plus encore angoissés, quand la population, elle, semble davantage résignée. Reportage à Londres, signé Richard Place.
Un peu déboussolé, mais pas franchement inquiet. Les Anglais sont brinque-ballés de mesures en restriction depuis la rentrée. D'abord géographique, désormais général. Un gouvernement qui change d'avis régulièrement et des citoyens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils ont encore le droit de faire.
Not exactly.
Pas exactement, mais en roughly. Gros, oui.
Yes. C'est dans les journaux, mais ce n'est pas encore clair sur ce que l'on peut faire ou pas.
En effet, ce deuxième confinement de l'année en Angleterre se précise au fur et à mesure. Les bars, les salles de sport, les magasins de vêtements, tout ce qui n'est pas jugé indispensable est désormais fermé. Et la population semble résignée.
Je pense que c'était inévitable. Ça aurait même dû intervenir un mois plus tôt. Ça aurait pu être plus court et plus efficace si la décision avait été prise à ce moment-là. Je ne suis pas très content de ce point de vue-là, mais je vais m'y plier.
Et pour ce qui est du respect des règles, encore faudra-t-il les connaître.
Oui, nous avons respecté le premier, on respectera celui-là. Nous boirons une bière dehors avec les voisins tous les soirs. On va bien le respecter.
Sauf que boire une bière avec ses voisins, même à l'extérieur, c'est désormais interdit jusqu'au 2 décembre.
En Italie, cette fois-ci encore traumatisé par la première vague de l'épidémie, le gouvernement a lui signé un décret d'une durée d'un mois instaurant un couvre-feu dans tout le pays qui entrera en vigueur demain. Il sera interdit de circuler entre 22h et 5h du matin. Par ailleurs, les lycées seront fermés et les centres commerciaux devront également baisser leurs rideaux pendant le week-end. Et puis à Chypre, là-bas, un couvre-feu nocturne sur l'ensemble du territoire est instauré à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois. En France, le confinement allégé sera-t-il suffisant pour casser rapidement la courbe épidémique? Hier, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire, Olivier Véran a eu ces mots. Il faut rester humble, a-t-il dit, face à cette épidémie qui évolue. Avant d'ajouter, on apprend en marchant. Reste qu'ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à regretter que les mesures de lutte contre l'épidémie soient toujours prises trop tard. C'est le cas de l'ancien directeur général de la santé et épidémiologiste William Dabb, mais aussi de Philippe Vigier, biologiste, député Modem d'Eure-et-Loire. Pour lui, vous allez l'entendre, le gouvernement a réagi trop tard face à la reprise de l'épidémie et n'aurait pas suffisamment tiré les leçons de la première vague, il le dit à Cécilia Arbonin.
S'il est vrai qu'on apprend en marchant, puisque le député, c'est le biologiste qui vous parle, ce qui est absolument incroyable, c'est comment la Direction générale de la santé, alors que je rappelle, M. Salomon qui était conseil d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle, avait expliqué que nous n'étions pas prêts. Et comment on a attendu tant de temps? Vous savez, je travaille encore un petit peu dans mon labo, je vois comment nous sommes envahis et par le nombre de tests, on essaie d'apporter des réponses maximum en 48 heures. On a un problème de lit. Olivier Véran avait annoncé 10 000 lits, ils sont pas encore disponibles. On doit monter en puissance. On aurait dû faire, je le dis très clairement, on aurait dû monter en puissance depuis le mois de mai sur le nombre de lits disponibles. Mais aussi, c'est une stratégie d'État qu'il faut penser. Est-ce qu'un pays comme la France doit avoir 10 000 lits de réa de façon permanente ou pas? Moi, je pense que oui. C'est indispensable. Et d'ailleurs, il y a 4 000 lits ce soir qui sont occupés en réanimation par des patients atteints du Covid. Nous avons 6 600 lits disponibles. Ça ne suffira pas, alors qu'on sait très bien que la vague est devant nous.
Le biologiste et député Modem d'Eure-et-Loire, Philippe Vigier, il répondait à Cécilia Arbonin. Au lendemain d'un couac retentissant pour la majorité, les députés ont finalement rétabli hier le calendrier de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février à l'issue d'une seconde délibération et au terme de débats houleux, le gouvernement et sa majorité ont fait table rase de deux amendements de l'opposition votés mardi soir à la surprise générale. Alors la carte du règlement de l'Assemblée abattue par le gouvernement pour effacer donc le camouflet essuyé la veille ne faisait guère de doute. Elle a tout de même valu à la majorité d'essuyer une nouvelle bordée de reproches. Quoi qu'il en soit, le texte doit à présent être examiné par le Sénat aujourd'hui, dominé, rappelons-le, par l'opposition de droite avant de revenir pour adoption définitive au Palais Bourbon. Ce sera samedi prochain. Et tandis que majorité et opposition s'accusent donc mutuellement d'instrumentaliser cette crise épidémique à des fins politiques, d'autres questions beaucoup plus concrètes, celles-ci se posent en particulier sur l'applicabilité ou non du protocole sanitaire renforcé dans les écoles. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. Bonjour monsieur.
Bonjour.
De plus en plus d'enseignants donc en grève ou en droit de retrait protestent aujourd'hui contre ces conditions sanitaires, celles de cette rentrée, réclament une meilleure application des règles et notamment grâce aux classes dédoublées, sauf que la récente réforme du baccalauréat poserait manifestement problème. Pour quelles raisons?
Alors, elle pose problème dans l'application du protocole prévu par le gouvernement et l'éducation nationale, puisque ce protocole prévoit d'éviter les brassages entre classes, sauf qu'il n'y a plus de classe au lycée, notamment en première et en terminale, et que les élèves peuvent aller d'un groupe à un autre groupe, suivant leur spécialité, leur langue vivante, leurs options, etc. Donc en fait, le protocole, pour que vous compreniez bien, il se résume à ça, au lycée, en termes de brassage. Les élèves de première ne doivent pas s'approcher à moins d'un mètre des élèves de terminale. Sauf qu'il y a certains lycées, il y en a 800 des élèves de première, il y en a 800 des élèves de terminale. Donc on est en train simplement de demander quelque chose qui, un, n'a strictement aucun sens sur le plan sanitaire, et qui, deux, est de toute façon absolument irréalisable.
Très concrètement, cela signifie qu'au-delà d'ailleurs des seules classes, que ce soit dans les couloirs ou dans la cour de récréation, la distance physique ne peut pas être respectée aujourd'hui.
Mais la distance physique n'a jamais été respectée depuis la rentrée de septembre et elle ne l'est pas davantage aujourd'hui. Effectivement, nous sommes toujours dans des classes à 30-35 dans les lycées, mais aussi dans les collèges où on est souvent au-dessus de 25. Et alors évidemment, les couloirs, les entrées, les sorties et le plus grave, hein, et bien entendu, les cantines où là les élèves ne portent pas le masque. Nous ne sommes pas en mesure, dans la plupart des établissements, d'adapter quoi que ce soit que nous n'ayons déjà fait à la rentrée. La seule solution, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui l'a écrite noir sur blanc en juillet dernier, dans ce qu'il a appelé un plan de continuité pédagogique, c'est de limiter la taille des effectifs, c'est-à-dire en gros de faire des demi-classes ou des demi-groupes afin d'avoir beaucoup moins d'élèves en même temps dans le lycée. Sinon, la seule autre solution, ce sera de fermer, en fait, probablement à très court terme.
Alors là, la situation, on l'a compris, n'est évidemment pas simple. Si du strict point de vue de l'épidémie, il vaudrait mieux fermer les classes pour réduire la circulation virale, le retour à l'école est quand même sans doute une bonne décision du point de vue éducatif. Comment faudrait-il dès lors trancher, selon vous, entre l'impératif pédagogique et puis l'impératif sanitaire ?
Mais alors le SNALC, et je crois que c'est le cas de tous les autres syndicats, ne demande pas à fermer les classes tant que cela ne fait pas exploser le système de santé. Parce que s'il y a un moment où il faut choisir entre l'école et l'hôpital, nous au SNALC on le dit, il faut choisir l'hôpital. Maintenant, tant qu'on est dans quelque chose d'encore gérable, la seule solution, c'est effectivement d'alléger les effectifs. Nous, au SNALC, on a signalé au ministère cela depuis déjà la deuxième quinzaine de septembre. Notre plus grande crainte, c'est que ce soit déjà trop tard pour le faire.
Merci Jean-Rémy Girard, président, je le rappelle, du syndicat national des lycées et collèges, d'avoir répondu à notre invitation. Et alors que se poursuit donc cette année scolaire inédite, entre crise sanitaire bien sûr, mais aussi sécuritaire, voilà que se tient aujourd'hui la journée annuelle contre le harcèlement scolaire, une journée qui devient même internationale pour la première fois depuis cette année. Selon le ministère de l'Éducation, un enfant sur 10 serait concerné, soit près de 700 000 élèves, un chiffre qui serait même plus important en réalité selon les associations, un phénomène qui se serait par ailleurs accentué avec le confinement depuis le printemps dernier. Je vous propose d'écouter Nora Fraisse, présidente de l'association Marion La Main Tendue, jointe au téléphone par Hakim Kasmi.
Mais le cyberharcèlement, justement, chacun donne ses chiffres. C'est quoi le cyberharcèlement ? Beaucoup pensent que c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand on est un témoin de harcèlement, de cyberharcèlement, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes cyberharcelés ? Quand moi, j'ai 8 ans et je suis témoin d'un contenu pornographique, comment je fais ? Quand moi, à 8 ans, j'ai accès à des réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 18 ans, comment on peut préserver nos enfants de ces images-là ? La plupart du cyberharcèlement, il démarre par des SMS, des messages privés. Donc ça, il faut le dire aux parents qui nous écoutent, aux éducateurs. Parce qu'on a beaucoup de familles qui disent « Non, non, moi, mon enfant, il n'a pas accès aux réseaux sociaux, il a pas de compte, il est en privé. » Très bien. Mais il peut être victime de revenge porn, il peut être la cible d'un cyberharcèlement en meute, il peut être la cible d'une vidéo tournée à son insu et diffusée sur les réseaux sociaux, dans des groupes privés. Il faut leur dire comment je dois faire face, comment je dois réagir, qui je dois contacter. Voilà, pour moi, le cyberharcèlement, c'est un espace de plus dans lequel nos enfants, malheureusement, et nos adultes, nous les adultes, quand on est victime de cyberharcèlement, on ne sait pas comment réagir. Imaginez pour un enfant en construction.
Nora Fraisse, présidente de l'association Marion La Main Tendue, jointe au téléphone par Hakim Kasmi. Les députés ont entamé hier l'examen en commission d'une proposition de loi sur la sécurité globale, dont certaines dispositions comme la pénalisation de l'usage malveillant de l'image des forces de l'ordre. En clair, l'interdiction de diffuser des images de policiers en opération suscite la controverse, une mesure dont personne d'ailleurs ne tirerait même avantage, selon Arthur Messeau de la Quadrature du Net, même pas les forces de l'ordre elles-mêmes, il le dit à Laura Dulieu.
Même la police elle-même a peu d'intérêt à cet article-là. Aujourd'hui, dans les dernières manifestations, si dans les moments de plus forte tension, de plus forte violence, si les manifestants qui étaient à bout, déjà qui étaient à bout dans leur vie, là, qui étaient en plus à bout dans les manifestations, vous leur enlevez le téléphone pour documenter ce qui se passe, pour exprimer leur colère et leur peur, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place des téléphones? Il faut vraiment redouter qu'ils mettent des armes, comme depuis en France on a fait pendant des siècles, les manifestations, et c'est vrai que dans le sang. Et une des raisons pour lesquelles le sang est de moins en moins présent dans les manifestations, c'est la documentation. La documentation qui apaise les conflits, qui permet, qui donne l'impression qu'on n'est plus seul face à la matraque, qui donne l'impression qu'on pourra documenter, qu'on pourra en parler à nos amis, qu'on pourra en parler au public en général. Et ça, cet apaisement, il est primordial si on veut éviter des manifestations sanglantes. Donc les policiers, s'ils pensent qu'à eux-mêmes égoïstement, ils devraient réfléchir à des stratégies pour éviter de se faire tuer. Bon, évidemment, si, en cas de dérapage, c'est pas du côté de la police qui aurait le plus de morts, malheureusement, ce serait du côté de la population. Mais même s'ils pensent égoïstement à court terme, il faut laisser à la population le moyen de se sentir non isolé face à la police, sinon ça sera la violence, ça sera l'escalade de la violence. Cet article-là, comme le reste de la loi, c'est un article qui acte l'escalade de la violence, dans laquelle tout le monde sera perdant.
Fragilisé par la Covid-19, il souffrait de séquelles, ce qui avait d'ailleurs contraint le Théâtre National de Strasbourg à reporter la création de son Antigone de Sophocle prévue cette saison. On l'a appris ce matin, Jean-Pierre Vincent est décédé à l'âge de 78 ans. Arnaud Laporte, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Producteur, faut-il le rappeler, d'affaires culturelles sur France Culture, merci d'être avec nous. Jean-Pierre Vincent avait fait ses premiers pas au théâtre, notamment avec Patrice Chéreau, mais aussi Jérôme Deschamps, avant donc de se tourner vers la mise en scène.
Oui, vous parliez de lycée à l'instant, et c'est là que ça commence, au lycée Louis-le-Grand, à la fin des années 60, Thomas. Trois élèves, Patrice Chéreau, Jérôme Deschamps, Jean-Pierre Vincent, qui vont faire les longues et belles carrières qu'on connaît. Vincent va suivre Chéreau à Gennevilliers, puis à Sartrouville, et ces jeunes gens vont changer la face du théâtre français. Vincent est plus politisé que Chéreau dans ses choix de mise en scène, et produira de grands spectacles sur la condition ouvrière, notamment au Théâtre National de Strasbourg, dont il prend la direction en 1975. C'est un théâtre politique, mais d'une très haute exigence artistique. Et puis, François Mitterrand va le nommer ensuite administrateur général de la Comédie Française en 1983, mais Jean-Pierre Vincent ne se sent pas très à l'aise dans la maison de Molière. Il dirigera ensuite les Amandiers de Nanterre de 90 à 2001, accueillant en résidence beaucoup de jeunes artistes. C'est aussi une des qualités très rares dans le monde artistique que d'être resté curieux et généreux envers les jeunes générations. Il avait cette qualité entre mille autres et jusqu'au bout, comme il l'a montré l'année dernière encore à Avignon, en montant un spectacle avec les élèves du TNS, le Théâtre National de Strasbourg. On parlera longuement de Jean-Pierre Vincent ce soir avec Stanislas Nordet, l'actuel patron du TNS, et avec Emmanuel de Marcimota, qui sera effectivement mon invité ce soir dans l'affaire culturelle à 19h, Thomas Cluzel.
Merci beaucoup Arnaud Laporte. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par de belles éclaircies sur l'ensemble du territoire. Seules quelques nappes de grisailles pourront perdurer sur les Hauts-de-France, le sud de la Bourgogne et le Lyonnais. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.